Bon, alors interro surprise, c'est pour moi l'interro surprise, c'est ça. Donc le format, normalement, c'est vous qui posez les questions et c'est moi qui essaie d'y répondre si je peux, si je sais des choses. Et puis de toute façon, j'ai des choses à vous montrer aussi. Donc ça peut être comme vous voulez. Soit c'est un format où je fais une petite conférence rapide pendant 30 minutes et puis ça fait des questions. Ou alors vous avez déjà des questions et puis il y a des réponses qui sont déjà dans ma présentation et puis je les sors au fur et à mesure. Comme vous voulez. Qu'est-ce que vous préférez ? Il y a des questions déjà ? Ah oui, c'est pour dire bonjour. Ah bon, non, c'est une intention, il faut faire attention. Des fois, dans les, comme dans les votes aux enchères, des fois on lève la main, il dit 8000, il a dit 8000, alors suivant. Donc là, on a des problèmes. Alors attendez, j'essaie de prendre un micro. Ah ben, il y a deux micros portatifs, donc ça c'est bien pour les questions. Voilà, je vous en passe un. Bon, est-ce qu'il y a déjà, est-ce que vous voulez, comment on procède alors ? C'est vous qui êtes les chefs, hein. Moi je suis juste là comme exécutant. Vous voulez que je vous parle déjà un peu des planètes de SF ? Qu'est-ce que c'est des planètes ? J'ai déjà une petite présentation un peu générale. Préparé spécialement pour l'occasion, donc si on ne s'en sert pas, c'est pas grave, je retrouve une autre occasion. Sinon, y a des questions. Alors, ce qu'on va faire peut-être aussi, c'est que je peux faire ma petite présentation, et puis en même temps, n'importe quand, vous m'interrompez, quelqu'un lève la main, comme dans les classes, hein. Hop, j'ai une question, et en rapport ou pas avec ce qui vient de se dire, et puis on fait comme ça, et on tient une heure tranquillement. Alors, l'idée, c'était donc parler des planètes de la science, des planètes de la science-fiction. Et pour ça, alors il y en a une ici, alors c'est un dessin, d'ailleurs j'ai glané sur internet, où on est censé représenter la planète Dune, que tout le monde connaît, j'espère. S'il y en a qui ne connaissent pas Dune, dehors. Bon, attention, hein, ça rigole pas. Moi j'ai bien les interros surprises, mais attention, hein, on ne faut pas se foutre de ma gueule non plus. Alors, donc là c'est la planète Dune avec un ver des sables, mais avant je voulais d'abord vous dire qu'est-ce que c'est en astrophysique, qu'est-ce que c'est une planète pour un astrophysicien. Un planétologue, il y a des gens même plus spécialisés que moi encore. Moi, je ne suis pas un spécialiste des planètes, a priori, hein, mais bon, c'est de la physique que je comprends. Et vous dire qu'est-ce que c'était une planète. Alors, cette petite image ici, j'espère que tout le monde voit bien. On voit un certain nombre d'objets du système solaire. Et la Terre, Vénus, Mars, ça, ce sont des planètes. Ganymède, c'est déjà plus tout à fait une planète, c'est un satellite. C'est un satellite de la planète Jupiter. Et puis il y a Titan, qui est un satellite de Saturne, etc. Ils sont classés, c'est des objets qui sont classés par taille décroissante. Parmi ça, il y a des planètes, et puis il y a des objets qui ne sont pas des planètes, qui sont des satellites. Et on peut remarquer, donc, par exemple, que Ganymède est un peu plus petite que Mars, que Titan est plus grande que la Lune. La Lune, elle est ici. La Lune, elle est ici. Et vous voyez que Mercure, qui est une planète, parce qu'elle tourne autour du Soleil, voilà la première propriété, tourner autour de l'étoile et pas autour d'un autre objet. Mercure, qui est une planète, est plus petite que Titan ou que Ganymède. Donc, ce n'est pas la taille qui fait la planète. Il y a quand même un aspect de taille qui est important parce que les objets que vous voyez là, pratiquement tous, les plus petits, vous ne les reconnaissez pas bien. Mais je vais brancher maintenant sur les objets de plus petite taille que vous voyez comme des vous de loin, comme un petit tas de pixels pas bien clairs. Voilà ce que sont les objets plus petits. Et vous remarquez tout de suite une différence morphologique entre ces objets-là et les précédents. Lequel est-il ? Ils ne sont pas ronds. Voilà, on peut dire ronds, hein, on va pas chercher à... Hein. Ils ne sont pas sphériques, ils ne sont pas ronds. C'est un peu la bonne idée. Et il y a une différence donc, qui est liée à la taille. Ça, pour le coup, c'est lié à la taille. Donc, ce n'est pas la taille qui fait une planète, mais n'empêche que, pour être rond, parce que ça fait partie de la définition de la planète, il faut tourner autour de son étoile et pas autour d'autre chose. Et il faut être, disons, rond, il faut être sphérique. Être sphérique, ça veut dire être assez gros, assez massif, pour que la gravité propre de l'astre lui impose sa forme. Vous, ici, vous n'êtes pas sphérique pour la plupart d'entre vous, Dieu soit loué. Bon, ça peut arriver des fois. Hein, mais non, en général, on n'est pas sphérique comme un humain parce que ce qui fixe notre structure, l'énergie de liaison, comme on dit, d'où vient l'énergie qui lie nos atomes entre eux, c'est l'énergie qui vient de l'énergie électrostatique, des liaisons chimiques, électriques entre les atomes et les molécules de notre corps. Et ça... C'est une force, la force électrostatique, ou les interactions entre molécules et atomes pour faire des structures comme nous, qui sont à courte portée, en pratique à courte portée. Courte, ça veut dire de la taille de l'atome, quelques atomes, pas très loin. Donc c'est des choses, un millimètre, c'est déjà énorme par rapport à la taille d'un atome. Et donc, de ce fait-là, ça autorise à avoir des grandes extensions par rapport à une forme moyenne qui est un peu verticale comme ça. Ça autorise à avoir des extensions bizarres. Si maintenant, c'est la force de gravité qui domine ma structure, ce n'est pas le cas pour moi ou pour vous parce que vous n'êtes pas assez massif. C'est le cas pour la Terre parce qu'elle est assez massive, elle est assez grosse. Alors si c'est la force de gravité, elle s'exprime à toute distance. De zéro, aussi proche qu'on veut, jusqu'à l'infini. Ça veut dire que la force de gravité que subit mon corps, elle résulte de l'attraction des particules de mon corps avec toutes les particules de la Terre. Toutes les particules de la Terre. Et ça s'appelle le résultat, mon poids. Et si la force s'exerce sur l'ensemble du volume de la Terre, elle veut rassembler au maximum la matière de la Terre, parce que cette force de gravité ne dépend que de la direction. Elle ne dépend pas de la direction, elle dépend que de la distance. Donc deux objets qui sont à cette distance sont comme ci, comme ça, ou comme ça, ou comme ça, ou comme ça. Il y aura toujours la même force entre ces deux objets matériels. Cette force, on l'a dit, asymétrie sphérique. Donc un objet qui est dominé par sa propre gravité, il aura spontanément la forme sphérique, à peu près sphérique. Alors il peut y avoir de la rotation qui va faire une force centrifuge importante à l'équateur et plus faible au pôle, qui va un peu écraser l'objet au pôle, comme la Terre, on le constate sur la Terre, ou sur Jupiter. Un objet qui est trop petit, qui n'est pas assez massif, sa gravité ne sera pas assez forte pour le comprimer en toutes directions de façon équivalente, et on a les patates de l'espace, ou les gros cailloux. Alors gros cailloux, là vous avez au milieu, c'est l'astéroïde Lutetia, c'est 100 km de taille. D'accord, c'est quand même un gros caillou. Mais les plus petits machins, le tout petit qui est là-haut ici, celui-là, Dactyl, qui est un satellite de Ida, c'est un astéroïde qui tourne autour d'un astéroïde, il y a des trucs de fou quoi. Eh bien, Ida, il a une tronche, voilà, c'est une patate, et Dactyl, il est plus petit, il fait un kilomètre, puis il a aussi une tête de patate. Vous avez tous vu, rappelez-vous, de l'image de la comète Churyumov-Gerasimenko, la comète que la sonde Rosetta a visitée et que visite depuis plus d'un an la sonde Rosetta, ça a une forme qui est n'importe quoi. Enfin, ça ressemble à rien. Donc une planète, c'est un objet qui tourne autour d'une étoile et qui est sphérique. Et il y a une troisième propriété sur laquelle je n'ai pas élaboré longuement, mais qui est importante aussi. Pour la dire en mots simples, c'est un objet qui a fait le ménage autour de lui. C'est-à-dire que cette planète, non seulement elle tourne autour de l'étoile, elle est sphérique, c'est-à-dire elle est assez grosse pour avoir une forme sphérique, mais en plus, elle est suffisamment grosse pour avoir déblayé un peu tout son environnement. Soit qu'elle a perturbé l'orbite d'objets qui sont dans son voisinage, et le machin s'est barré, soit l'objet a été perturbé, il est tombé sur la planète. Il l'a fait grossir, elle est devenue un peu plus grosse. C'est ce qui, pense-t-on, est arrivé à la Terre, dans la Terre primitive, qui s'est formée probablement à partir d'un objet qui n'était pas encore la Terre, qui était, disons, la proto-Terre, qui a rencontré un objet qu'on appelle Theia, un objet hypothétique, on n'a jamais vu les traces, objet Theia qui a percuté la Terre, qui avait la taille à peu près de Mars, qui a percuté la Terre, donc c'est une sacrée collision, et qui a eu pour résultat de faire la Terre, un peu plus grosse, parce qu'il y a de la matière qui est arrivée dessus, et un autre bout qui s'est mis en orbite, la Lune. D'accord, donc la Lune résulterait, c'est ce que l'on pense, de cette collision hypothétique il y a 4,5 milliards d'années. Donc voilà ce que c'est une planète, et voilà la raison pour laquelle, vous savez tous que Pluton n'est plus une planète. C'est pas qu'elle a disparu, elle est toujours là. D'ailleurs, vous avez vu peut-être les images de Pluton qui ont été publiées par la science New Horizons, des images stupéfiantes. Pluton n'est plus une planète. Pourquoi ? Parce qu'elle est, elle tourne autour du Soleil. Bon. Elle est sphérique. Bon, on l'a constaté, elle est presque sphérique. Elle a une taille qui est 1400 km à peu près, donc la taille de la Lune à peu près. Et elle n'a pas fait le ménage autour d'elle. Il y a une chier d'objets autour de Pluton qu'on ne voyait pas, car ils étaient très faiblement lumineux, qu'on voit maintenant au télescope depuis une petite dizaine d'années. Et ces objets, on n'en voit pas un, on en voit plein. Et ces objets gros comme Pluton, on en voit 10. Et du coup, il y a quoi ? Il y a 9, 10, 11, 12, 20 planètes. Alors à un moment donné, il a fallu dire, non, on arrête le compte, on tranche à 8 planètes, les 8 planètes, disons, historiques. Et puis, il y a Pluton, qui n'est plus une planète, qui est classée, alors, c'était pour ne pas énerver les Américains, on lui a donné le nom de planète naine, et on a mis dans les planètes naines Pluton, Cérès, le plus gros astéroïde du système solaire, qui tourne entre Mars et Jupiter, et tout un tas d'objets qui sont au-delà de Pluton, ils sont aussi gros que Pluton, qui sont sphériques. Donc on les a appelés planètes naines, parce que ce sont des petits objets, qui sont de la, alors il n'y a plus d'image, mais qui sont en gros de la taille de la Lune ou de Europe, du satellite Europe, un satellite de Jupiter. Et ces objets-là, on les appelle maintenant les objets transneptuniens, les objets qui sont au-delà de Neptune. Ils font partie d'une structure qu'on appelle la ceinture de Kuiper. Alors, ça, c'est les cailloux. Un petit historique, mais qui n'est pas complet, c'est le nombre de planètes découvertes. Il faut regarder la hauteur de la barre. Nombre de planètes découvertes, d'exoplanètes, parce qu'il y a celles du système solaire, mais il y a aussi des planètes qui tournent autour d'autres étoiles que le Soleil, qu'on appelle des exoplanètes. On fête cette année le 20e anniversaire de la découverte de la première exoplanète confirmée. Avant ça, évidemment, on se doutait bien qu'il y avait des planètes extrasolaires, des planètes autour d'autres étoiles, mais sans en avoir de preuves. Maintenant, c'est tout à fait certain. Voilà un peu un histogramme qui dit chaque année combien on en découvre. Maintenant, il y a un paquet qui n'a pas été mis là. Il y a plus de 2000 exoplanètes confirmées maintenant. Et avec les statistiques dont on dispose, on sait qu'il y a probablement plusieurs planètes par étoile de notre galaxie, et que plusieurs, c'est peut-être 2 ou 3 ou 4 en moyenne, et qu'il y a 200 milliards d'étoiles en gros dans notre galaxie. Donc on sait qu'il y a une chier de planètes dans notre galaxie, ça c'est sûr maintenant. D'accord ? C'est plus une discussion, on a des preuves, disons, statistiques, et des preuves indirectes de leur observation. Quand je dis indirect, jamais on ne voit la planète comme un petit point brillant dans le ciel, enfin pas tout à fait jamais, il n'y a que 2 ou 3 exceptions, où on voit la planète comme un petit point brillant dans le ciel, et toutes les autres cas, c'est des effets de la présence de la planète sur le mouvement de l'étoile. Donc sont des... ou sur la luminosité de l'étoile. Je ne rentre pas dans les détails de comment on les détecte, ce n'est pas ça qui va nous intéresser aujourd'hui, mais pour vous montrer, voilà ce qu'on peut voir autour d'une étoile qui s'appelle 51 Pégase, de la constellation de 50, pas 51 Pégase, c'était la première, Bêta de la constellation du Peintre. L'étoile est ici derrière un masque qui occulte la luminosité considérable de l'étoile, de sorte que l'on peut voir 2 choses. Ce disque-là, qui est un disque de poussière à partir duquel se forme les planètes de cette étoile, et dont on voit ici à un instant et à un autre instant, en octobre 2003 et ici en novembre 2009, la lumière très faible, typiquement 1 milliard de fois plus faible que de la lumière de la planète, 1 milliard de fois plus faible que celle de l'étoile. Et c'est pour ça qu'il faut occulter l'étoile si on veut voir apparaître la planète. Les occultations qu'on sait faire, c'est très brutal, on met un gros machin devant, ce qui fait que si l'étoile a une planète qui est très proche d'elle, elle est derrière le cache, et on ne la verra pas. Donc là, par chance, on a non seulement une planète, mais une planète suffisamment éloignée pour qu'on puisse la voir en dépit du cache un peu grossier qu'on est en train de mettre en ce moment. Les techniques maintenant d'observation directe de planètes sont en train de se perfectionner, et on peut espérer que dans quelques années, je pense vraiment moins de 10 ans, c'est tout à fait certain à mon sens, on va pouvoir commencer à observer directement les planètes qu'on a déjà détectées, en tout cas les plus brillantes et les plus éloignées de leur étoile. Alors là, ce sont des vues d'artistes de potentielles exoplanètes habitables, parce que quand vous imaginez bien que quand on cherche une planète pour comprendre comment elle se forme autour d'autres étoiles, parce que bien sûr, avant qu'on découvre ces exoplanètes, on avait une idée, pensait-on, assez précise, dont la façon dont les planètes du système solaire s'étaient formées. Et puis dès qu'on a découvert quelques exoplanètes, on a essayé de plaquer le modèle de formation des planètes du système solaire sur ces exosystèmes, et on a vu que c'était carnaval, que notre modèle il marchait pas du tout, et du coup ça a obligé à refonder complètement les modèles de formation planétaire du système solaire pour qu'ils comprennent à la fois le système solaire et puis les autres systèmes que l'on observait. Maintenant on a des idées un peu plus précises, je vais pas rentrer dans les détails, ça serait trop long. On a des idées, disons, grâce à ces exoplanètes, à leur observation, des idées plus précises sur la façon dont les planètes se forment dans un système planétaire. Et puis ce qu'on cherche aussi, ce sont des exoplanètes de taille terrestre, qu'on appelle telluriques, autrement dit avec un sol solide et puis une atmosphère éventuellement, parce que c'est sur celle-ci que l'on pense que la vie pourrait se développer, espérant que ces exoplanètes aient de l'eau liquide à leur surface, parce que l'eau liquide nous est bien confortable pour penser l'émergence de la vie. Sur Terre, l'eau liquide a été indispensable. On n'est pas certain qu'elle soit indispensable, elle l'est sur Terre. Bon. On va chercher éventuellement des traces de vie, si un jour on peut le faire. Comment on pourra le faire? Le jour où on aura la capacité de capter la lumière directe de la planète, donc de la voir comme un petit point lumineux, et de faire ce qu'on appelle de la spectroscopie, analyser la lumière qui nous vient de la planète, de l'atmosphère de la planète, pour déterminer par exemple la composition de cette atmosphère. Si on sait faire ça, on a une chance de se faire une idée si d'abord il y a une atmosphère, qu'est-ce qu'elle contient, et éventuellement y trouver des traces d'atomes ou de molécules qui seraient d'origine biologique. Bon, pour l'instant, on en est assez loin, mais voilà, les progrès d'observation sont tels que là, on a une petite dizaine d'exoplanètes sur lesquelles on pense qu'elles sont habitables, disons qu'elles ont des conditions que la vie terrestre pourrait accepter. On n'a pas été voir sur place, c'est très indirect, hein, les avis qu'on en a. Ce sera évidemment les premiers objets qu'on observera dès qu'on pourra faire de la spectroscopie. Alors voilà le petit tour d'horizon des planètes et de ce qu'on sait en dire. Alors voilà, en passant une planète bien connue, vous avez tous reconnu Avatar, c'est le film Avatar, et on voit 2 objets, une planète et un satellite. La planète, c'est l'objet du fond, c'est l'objet qui s'appelle Polyphème. Et puis l'objet qui est devant, Pandora, c'est là où se passe l'aventure du film Avatar. C'est pas une planète, c'est un satellite de Polyphème. D'accord ? Donc dans le film, ils disent une planète, mais ce n'est pas une planète. Alors quand on voit un objet comme ça, on peut se dire comment est-ce que Cameron s'est inspiré ? D'où il s'est inspiré ? C'est une première trace. Est-ce qu'il a fait un truc au hasard ou pas ? Alors quand on regarde déjà Pandora, ça ressemble à la Terre vue de l'espace. Il y a des zones vertes. On se dit, ben ça va être les continents avec des plantes. Il y a des zones bleues, on va dire que ça va être des océans. Il y a des zones blanches avec des petits tourbillons qu'on les voit un peu dessinés. C'est les nuages. Ça ressemble à la Terre vue de l'espace, mais ça n'est pas la Terre. On ne reconnaît aucun continent terrestre, mais ça ressemble à la Terre vue de l'espace. Donc ils se sont, pour faire une planète habitable, un satellite habitable, pour faire Pandora, il s'est assez nettement inspiré de la Terre. Et pour faire Polyphème, qu'on voit très souvent dans le ciel de Pandora, ben qu'est-ce qu'ils ont fait ? Regardez, c'est très simple. Ils ont pris Jupiter. Voilà une véritable image de la planète Jupiter, avec un satellite de Jupiter qui s'appelle Io, qui fait une ombre sur Jupiter. Eh bien, ils ont pris Jupiter, ils ont pris Photoshop, en gros, et ils ont peint en bleu. D'accord ? C'est assez simple. Moi, je suis pas capable de faire ça. J'ai essayé de faire ça avec Photoshop, voir si je pouvais jouer et faire Jupiter en bleu. C'était trop moisi, j'ai pas osé comparer, mais vous avez compris l'idée, quoi. D'accord ? Donc, ils ont pris Jupiter, ils ont peint en bleu. Et voilà tout. Donc là, ils peuvent faire un objet qui est réaliste, finalement. Réaliste en quel sens ? Ben, les tourbillons, les volutes qu'on voit dans l'atmosphère de la géante gazeuse Polyphème, elle ressemble à Jupiter. Donc, c'est une géante gazeuse, une planète géante. C'est la plus grosse planète du système solaire, Jupiter. Elle est à peu près, elle fait 70 000 km de diamètre, là où la Terre fait 12 000 km. Donc, elle est un bon paquet de fois plus grosse que la Terre. Ils ont pris Jupiter, ils l'ont un petit peu transformé. Et puis, ils ont choisi de faire une planète, enfin un satellite habitable autour de Polyphème. Alors, ça pose évidemment plein de questions. Si on prend le satellite Io, par exemple, le satellite Io, qui est en orbite autour de Jupiter, le satellite Io, qui est ici, hein, d'ailleurs, on va vous le montrer là. Je voulais voir si j'en avais une image, j'avais prévu d'en vous montrer une image après. Ah oui, ben il est là. Je vais sauter directement à là, comme ça, on va pouvoir voir. Voilà une image directe du satellite Io. Cette image du satellite Io, on y voit dessus des choses extrêmement intéressantes. Regardez là, ce qu'on voit ici, ce qu'on voit là, ce qu'on voit ici, c'est ça. Et ce qu'on voit là, c'est ça. Ce sont des éruptions volcaniques. Et pas un peu. Hein. Ça fait la taille de la Lune, donc à peu près, en gros la taille de la Lune, donc 1738 km de rayon. Là, vous avez une éruption volcanique qui doit faire à peu près 200 à 300 km de hauteur. C'est une bonne éruption déjà. Et puis là, on la voit, l'éruption, on la voit de dessus. Et on voit ici, c'est l'ombre, on voit même la lumière rougeâtre sur l'image, c'est l'ombre du panache de matière qui sort de l'éruption volcanique et qui est sombre ici car elle est trop opaque et qui là est rougie par le simple fait que la lumière diffuse sur les particules de poussière éjectées par le volcan sur Io. Il y a une autre image, j'en ai une autre, je crois, juste derrière. Là, on voit Jupiter, alors photographié en lumière infrarouge, donc on a des couleurs un peu curieuses. Là, on voit ici Io, et on peut faire un zoom sur Io, et là, on voit Io, et regardez ce qu'on voit. Là, une autre éruption volcanique, de côté, la portée, c'est des centaines de kilomètres, ça éjecte de la matière sur des centaines de kilomètres, avec une altitude qui se chiffre en typiquement 100 kilomètres. Donc, on a vraiment un objet qui est soumis à des éruptions volcaniques. C'est le seul autre objet du système solaire qui a des éruptions volcaniques de roches liquides. Nous, sur Terre, on a de la roche liquide qui sort des volcans, ça s'appelle la lave. Il n'y a aucun autre endroit à part Io, et la Terre, les autres éruptions volcaniques que l'on constate sur Terre, c'est ce qu'on appelle du sur Terre. Dans le système solaire, c'est le cryovolcanisme, c'est de la roche, de l'eau liquide, des éruptions très chaudes d'eau liquide à 0 degré Celsius qui sortent dans un milieu qui est à moins de 100 degrés Celsius. C'est en ce sens qu'elles sont très chaudes. D'accord ? C'est du cryovolcanisme. On observe ça, par exemple, sur un satellite de Saturne, ça s'appelle Encelade. Alors là, on voit du vrai volcanisme de roche liquide. Ce sont les forces de marée de Jupiter, le fait que le champ de gravité n'est pas homogène, il dépend de la distance. Plus on est loin, plus il est faible. Un objet qui est plongé, par exemple la Terre, qui est plongé dans le champ de gravité de la Lune, mais la Lune qui est plongée dans le champ de gravité de la Terre, ça marche dans les deux sens, évidemment. Eh bien, quand la Lune est au-dessus de votre tête, en gros, ça n'arrive jamais dans les latitudes terrestres, dans les latitudes françaises, mais quand la Lune est au-dessus de votre tête, vous êtes plus près de la Lune que quelqu'un qui est aux antipodes. Si vous êtes plus près, c'est que vous êtes plus attiré par la Lune que quelqu'un qui est aux antipodes. Et le quelqu'un, vous vous en foutez, ça n'a aucune importance sur vous, c'est la Terre. Et la Terre va se retrouver donc étirée, elle va sentir, elle, un étirement qui est dû à ses forces de marée. L'étirement sera très manifeste sur les forces, sur les surfaces déformables, comme les océans, et ça fera deux bourrelets antipodaux. Comme la Terre fait un tour en 24 heures, deux bourrelets, chaque 12 heures, on a une marée. D'accord ? Chaque 12 heures, on a une marée. Mais pensez que quand il y a la marée haute, si j'ose dire, la marée haute à Nantes, je ne sais pas si on voit la marée haute à Nantes. On voit la marée haute à Nantes, hein, il me semble bien. Bon, comme Brest, enfin, genre. Mais moins haute, voilà. Quand la marée est haute à Nantes, ça se voit, il n'y a qu'à regarder l'eau, quoi. Il n'y a qu'à regarder l'océan. Mais il faut penser que la croûte terrestre, il n'y a pas que l'eau qui se déforme. Il y a aussi la croûte terrestre qui déforme de 30 cm. Tout le monde de 30 cm. Et du coup, il y a des marées hautes à Paris aussi, quoi. À Paris, la marée, on peut la chercher, on ne la voit pas. On ne la sent pas. Mais il y a aussi des marées hautes de croûte continentale. Les marées de la Terre sur la Lune, il n'y a pas d'eau sur la Lune, donc il n'y a pas de marée océanique, évidemment. Il n'y a que des marées de croûte. Et la croûte de la Lune se soulève d'un mètre. Bon, c'est pas mal. Mais ça ne se sent pas, c'est très mouvement très lent. Ça redescend gentiment. N'empêche que ces marées de croûte sur la Lune, ça fait des craquelures sur la Lune qu'on constate et qui ont des sens précis qui résultent de la façon dont la Lune et la Terre sont placées relativement. Donc on voit des conséquences sur la croûte de la Lune des marées terrestres. Et puis si vous prenez Jupiter et Io, alors là c'est un autre monde. Parce que Io, elle est grosse comme la Lune, mais Jupiter, elle est beaucoup plus grosse et beaucoup plus lourde que la Terre. Et les marées de Jupiter sur Io, ça soulève la croûte de Io de 100 mètres. Alors ça n'a pas l'air beaucoup, 100 mètres sur 1700 km en gros de rayon, mais n'empêche que c'est beaucoup. C'est comme si vous prenez Io, vous écrabouillez, ça c'est les marées, vous étirez, vous écrabouillez, vous étirez, vous écrabouillez, vous étirez au rythme de la rotation de Io autour de Jupiter. Si vous prenez une balle, pardon, prenez une balle de squash, vous prenez une raquette de squash, vous tapez un coup dedans, ça écrabouille la balle, elle arrive sur le mur, puis elle se dilate pendant qu'elle vole, elle arrive sur le mur écrabouillée, elle revient, elle reprend un coup dans la tronche, ça recommence. Elle est écrabouillée, relâchée, d'accord ? Elle est comment la balle de squash au bout d'un peu de minutes de jeu ? Elle est chaude. Elle est chaude pourquoi ? Parce que toute l'énergie que vous avez mise, qui a servi à déformer la balle de squash, a été pour partie dans l'élasticité de la balle. La balle a rebondi, mais ce n'est pas un rebond parfait. Il y a une partie qui s'est dissipée en chaleur et qui a chauffé la balle. Ça se ressent sur les balles de tennis aussi, mais c'est un peu moins sensible. Sur les ballons de foot peut-être aussi, mais ce n'est pas très sensible, qui sont plus gros. Sur les balles de squash, c'est manifeste. Il a touché au début, au bout d'une demi-heure de jeu, elle est chaude. Et bien Io, c'est un peu ça qui lui arrive. À force d'être écrabouillé, relâché, ça chauffe, ça dissipe de l'énergie à l'intérieur et ça provoque la fusion des roches internes qui n'auraient pas dû fondre parce que Io étant petite, quand elle s'est formée, elle s'est refroidie et elle devrait être complètement solide à l'intérieur comme la Lune est entièrement solide à l'intérieur. Elle ne l'est pas à cause des forces de marée, d'où les éruptions volcaniques sur Io et pas sur d'autres satellites de Jupiter qui sont trop lointains pour que ces forces de marée soient importantes. Un satellite de Jupiter qui s'appelle Europe est un peu plus lointain, mais pas beaucoup plus lointain. Et là, une conséquence, lui, c'est que c'est une surface glacée. Io, il n'y a pas de glace à sa surface. C'est de la roche solide. C'est une surface glacée. Mais le fait qu'elle subisse aussi les compressions, dilatations des forces de marée de Jupiter, la dissipation, ça a provoqué sous la couche de glace de Io un océan d'eau liquide dont on a des traces. On sait, ce n'est pas une discussion maintenant, il y a des preuves très directes de l'existence d'un océan glacé sous la couche de glace, à peu près, ça dépend les endroits, entre 30 et 90 km d'épaisseur de glace, sous laquelle il y a un océan d'eau liquide qui doit faire une centaine de kilomètres de profondeur. Les forces de marée ont donc un effet d'une grosse planète sur un petit objet. On ne voit, si je reviens à Polyphème Pandora, vous chercherez vainement les forces de marée qui ont agi sur Polyphème, sur Pandora, de la part de Polyphème. Il n'y a pas de volcanisme. D'accord ? Et pourtant, moi, je ne vais pas vous le faire ici, mais on peut mener une enquête à partir des images de film pour déterminer, en gros, la distance de Pandora à Polyphème. Si c'était très, très, très lointain, on dirait tout va bien, les forces de marée sont faibles, tout va bien, il y aurait un peu de travail, mais pas tant que ça. Mais le résultat qu'on trouve, c'est que Pandora est très proche de Polyphème. Elle est à peu près aussi proche de Polyphème que Io l'est de Jupiter. Et du coup, on devrait avoir des volcans. Vous voyez des emmerdeurs comme moi. Bon, alors le mythe, le film, il est bon ou il n'est pas bon. On est d'accord, on n'en a rien à foutre. C'est pas ça, c'est pas la science qu'il y a dedans qui fait que le film est bon ou pas bon. Mais vous voyez que ce qu'elle veut dire que par la science, et j'oublie complètement ce qu'a voulu faire Cameron, je m'en fous complètement. Je prends ça en me disant, c'est une image réelle. Est-ce qu'elle est crédible ou est-ce qu'elle n'est pas crédible? Regardez comme ça, il n'y a aucun problème. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Il n'y a pas d'incongruité. C'est un peu curieux, vu ce qu'on sait de nous, des satellites, des planètes géantes, de trouver un satellite habitable. Bon, mais pourquoi pas? Il n'y a pas d'impossibilité théorique. En revanche, quand je regarde bien tout le film, et connaissant, déterminant à partir du film la distance entre Pandora et Polyphème, on peut déduire qu'il devrait y avoir un volcanisme assez actif qu'on ne voit pas. Voilà, c'est tout. Puis après, on passe à autre chose, et puis le film, on l'aime ou on ne l'aime pas, pour d'autres raisons. Il y a une autre chose qui est intéressante sur pourquoi il pourrait être habitable. Vous vous rappelez, dans Pandora, il y a une atmosphère qui est irrespirable pour les humains. Il y a des images. Une des questions, excusez-moi, dites-moi.
Pour revenir sur la question des forces de marée, de la Terre sur la Lune, étant donné que la Lune a toujours la même face tournée vers la Terre, elle subit des forces de marée, mais tout le temps dans le même sens, en fait. Elle a une déformation permanente, la déformation change avec le temps?
C'est une très bonne question, et c'est une subtilité que vous avez repérée, sur laquelle je vais répondre. La Lune, elle présente toujours la même face par rapport à la Terre, mais pas vraiment toujours la même face, d'abord. Elle a un tout petit mouvement, si ça c'est la face visible de la Lune, la face cachée qui est là. Là, vous êtes la Terre, elle fait ça et elle fait ça en même temps. Elle fait un petit mouvement comme ça, d'accord? Qu'on appelle un mouvement de libration. Ce qui fait qu'en pratique, je le fais pour ceux qui n'ont pas vu, ce petit ça, comme ça. D'accord? Vous voulez voir? Comme ça. C'est rigolo. Bon. C'est une habitude. Hein. Ce qui fait qu'en pratique, on ne voit pas 50% de la surface de la Lune, exactement la moitié, on voit un peu plus. 58%, on voit un peu derrière les oreilles de la Lune, si je veux dire. D'accord? On voit un peu plus. Bon. Donc elle a un petit mouvement comme ça. La synchronisation entre rotation et révolution, elle est due aux forces de marée de la Terre sur la Lune. C'est une conséquence des forces de marée. Et d'ailleurs, pour Io, là où je vous ai un peu roulé, mais du coup, je vais vous dérouler, si j'ose dire, c'est que Io, elle est synchronisée aussi, rotation-révolution. Et d'ailleurs, Pandora devrait être aussi synchronisée, rotation-révolution. Autrement dit, depuis Pandora, on ne devrait voir, soit on voit toujours Polyphème, si on est du bon côté, soit on ne voit jamais Polyphème, si on est du mauvais côté. À ce petit mouvement pré-éventuel, résiduel, qu'on appelle de libration. Une fois que vous êtes synchronisé exactement, les forces de marée n'agissent plus. Elles sont toujours dans la même direction. La planète est étirée dans une direction et puis c'est tout. Il n'y a pas j'écrase, je retire, j'étire et puis voilà. Donc il n'y a pas de dissipation. Pour expliquer la dissipation chez Io ou un petit peu dans la Lune, il faut réaliser que l'orbite de Io et l'orbite de la Lune ne sont pas strictement circulaires. Elles sont elliptiques. La distance varie. Et donc, il y a une variation dans les forces de marée. Et c'est la variation de distance plus que la variation de position qui fait cet écrabouillement qu'on a sur Io. Donc, une subtilité, mais qui me permet de la détailler ici. Ce qui veut dire que finalement, sur Polyphème Pandora, Pandora devrait présenter, disons, toujours la même face à Polyphème. Du coup, maintenant, imaginez-vous ça. Enquête. Où sont les navires qu'on voit? Est-ce que vous pouvez me décrire la scène typique qu'on voit de la surface de Pandora, si vous en rappelez, ceux qui s'en rappellent, de la surface de Pandora, quand on regarde le ciel et quand on est chez les navires, qu'est-ce qu'ils voient dans le ciel? En général, on met Polyphème. Et vous vous rappelez, où est Polyphème dans le ciel? Sur l'horizon. Elle est très souvent sur l'horizon. Je ne sais pas si je l'ai là comme image. J'ai peut-être pas tout prévu alors. Hein. J'ai pas. Maintenant, j'ai pas ça. Après, c'est du Star Wars. Bon, ben, tant pis. Hein. On voit Polyphème souvent sur l'horizon. Imaginez-vous sur la Lune, on va le faire avec la Lune et la Terre. La Lune, elle bouge dans le ciel de la Terre. Bon, très bien. Elle n'a pas les mêmes phases, mais on voit toujours la même face. Si vous êtes sur la Lune, sur la face cachée de la Lune, on ne voit jamais la Terre. Sur la face visible de la Lune, on voit toujours la Terre. Et la position de la Terre dans le ciel de la Lune, quand on voit la Terre, ça dépend que d'une seule chose. Ça dépend de votre position sur la Lune. Si vous êtes au centre de la face visible de la Lune, la Terre, elle est au zénith, exactement au-dessus de votre tête. Si vous êtes à la limite entre la face cachée et la face visible de la Lune, la Terre, elle est sur l'horizon de la Lune. Et avec la libration, on va la voir se lever, se coucher, faire des petits mouvements. Maintenant, vous êtes sur Pandora, Polyphème. Vous êtes sur Pandora. Vous regardez Polyphème. Vous voyez Polyphème, elle est toujours sur l'horizon. Les navires dont on discute dans le film, ils voient toujours Polyphème sur l'horizon. Ça, c'est pour faire joli, ça fait des belles images. ça veut dire que les Na'vi du film, ils habitent dans une région de Pandora qui n'est pas n'importe laquelle, qui est à la limite entre la face cachée et la face visible du point de vue de Polyphème, la face cachée et la face visible de Pandora. La face qui fait face à Polyphème et la limite avec la face qui fait dos à Polyphème. Donc on peut même savoir en gros où se passe l'aventure uniquement en regardant ce qu'on voit. Vous voyez que ça rigole pas l'astronomie. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, n'empêche que moi j'arrive et je fais chier le monde, quoi. Enfin, peut-être que Cameron, il sait même pas les situer. Il fait un truc de l'espace, il fait comme ça, il dit c'est cool. Et après, boum, il fait sa représentation au sol. Ils ont pas décidé. Peut-être n'ont-ils pas décidé. Ben, ça sera là. Et voilà, ils pourraient pas zoomer sur leur Pandora pour dire ah ben c'est là que ça se passe. Ils s'attendent, ils le savent pas. Bon, je l'ai pas écrit pour lui dire, mais on pourrait imaginer. Il y a des problèmes d'atmosphère. On parlait tout à l'heure d'atmosphère parce que une planète sans atmosphère, c'est assez embêtant. Nous, on ne peut pas y respirer, évidemment, mais on se dit, sans atmosphère, la pression de surface est nulle, très faible, et du coup, l'eau liquide ne peut pas perdurer, elle va bouillir automatiquement. Si vous mettez un verre d'eau, vous prenez ce verre d'eau, là, l'eau s'évapore un peu, ça ne se voit pas, il n'y a pas d'ébullition, mais l'eau s'évapore un peu, bien sûr. Ce verre d'eau, vous mettez sous une cloche à vide, sous une structure, grâce à une pompe, vous allez enlever l'air sous la cloche, de façon étanche, enlever l'air. La pression sous la cloche va diminuer. Ceux qui sont passés par le lycée, ils ont peut-être utilisé une fois une cloche à vide. Spontanément, l'eau va se mettre à bouillir. À bouillir, il y aura des bulles de gaz, vous allez voir, ça bloub, bloub, bloub. Et l'eau, elle est à 20 degrés. Enfin, à 25, il fait un peu chaud ici. Spontanément, parce que la pression est faible. Donc, l'eau liquide ne peut pas exister à pression faible ou nulle. Donc, il faut une atmosphère, c'est une sorte de couvercle qui permettrait d'avoir de l'eau liquide. D'où l'intérêt pour les astrophysiciens ou les planétologues, de chercher des exoplanètes plutôt avec une atmosphère. D'abord. Là, il y en a une. Elle n'est pas respirable par les humains. Pas de problème. Ça, c'est pas un problème par défaut. Il y a des tas de choses qu'on ne peut pas respirer. Est-ce qu'on peut déduire la composition, ou du moins se faire une idée de la composition de l'atmosphère? Alors, regardez ce que dit. Il y a un officier qu'on vous rappelait quand ils arrivent sur Pandora, ils viennent de l'orbite, ils se posent. Il y a un gars qui dit, vous mettez un masque. Vous voyez que c'est un masque assez léger. D'accord, c'est pas un gros scaphandre et tout ça. Donc c'est une atmosphère qui n'est peut-être pas respirable, mais la pression atmosphérique, elle est probablement de l'ordre de grandeur de celle de la Terre. Elle est voisine de celle de la Terre. Ils mettent un masque assez léger et on vous dit vous êtes inconscient en 20 secondes et mort en 4 minutes. Alors moi je suis un dingue et du coup je me dis qu'est-ce que ça pourrait être comme gaz? Alors évidemment il y a des variétés énormes de gaz que nous ne pouvons pas respirer, évidemment. Nous dans l'oxygène, l'air de la Terre, c'est 80% de diazote, 20% de dioxygène et puis des résidus de d'autres trucs. Il y a plein de choses qu'on ne peut pas respirer. Mais je me dis, qu'est-ce que ça pourrait être qui m'arrangerait, moi? Qui m'arrangerait parce que j'ai, un, trouvé l'information pas trop difficilement, et qui, deux, serait cohérente avec le reste. Et le reste de ce que je vois, moi, je vois des plantes. Rappelez-vous la surface de Polyphème, de Pandora, c'est des plantes exubérantes. C'est une sorte de, on dirait en biologie, un milieu tropical humide. Plein de plantes. Qu'est-ce qu'elles mangent, les plantes? Du CO2. Qu'est-ce que moi, je ne mange pas ou que j'aime pas respirer? Du CO2. Donc, travaillant au CEA, je vais voir mes copains qui sont dans les unités de secours. Au CEA, il y a des laboratoires de physique, de chimie, qui manipulent de physique nucléaire, donc qui manipulent des produits dangereux. Il y a des équipes d'intervention qui sont spécialement préparées à intervenir en un milieu dangereux. C'est pas j'ouvre le labo et le mec est mort. Non. Ils savent exactement tous les produits où ils sont, parce que chacun cartographie, c'est cartographié précis. Pour vous donner une idée, hein, chaque produit dans des boîtes étiquetées, dans des armoires repérées, avec des étiquettes, des machins. Il y a à l'entrée de la pièce, il y a écrit dans cette pièce, il peut y avoir toute cette liste de problèmes. Et il y a des équipes qui savent intervenir dans tel genre de pièce, qui savent par cœur ce qui s'y passe. Enfin, ça rigole pas. Et on leur demande, alors, le CO2, c'est dangereux, et comment? Alors eux, ils prennent la doc, ring, ils ont des bouquins comme ça, de tout, et on regarde. Alors, dans le CO2, voilà ce qu'on apprend. La teneur de l'atmosphère terrestre, c'est... Alors maintenant, ça a un peu changé. J'ai gardé cette valeur que j'ai faite à l'époque où le film est sorti, c'était en 2009. À l'époque, c'était 0,036%. Il y a quelques mois, on est passé à 0,040%. On va dire, ouais, ils nous font chier pour... Non. Cette petite différence, c'est l'activité anthropique, l'activité humaine, et c'est elle qui va modifier le forçage radiatif, l'accumulation de chaleur sur la Terre due à la présence de ce gaz à effet de serre. Moi, j'ai fait ce truc en 2009, quand le film est sorti la première fois. Je l'ai laissé à vertu pédagogique pour dire que maintenant, c'est 0,040. Ça a changé. On apprend que ce n'est pas beaucoup. Tout le problème qu'on dit climat-environnement, c'est le 0,04% qu'on s'est pris déjà en... Le 0,0004... Hein, donc le 10-5 qu'on a gagné en quelques... Hein. Ah, bien sûr, ça fait beaucoup de la valeur, évidemment. Mais c'est ce tout petit nombre qui change. Bon, premièrement. Deuxièmement, 10%, donc 0,036, tout va bien. On respire, la vie est belle. Bon, enfin, on aura un peu plus chaud, mais voilà. 10%, vous rentrez dans une pièce où il y a 10% de CO2, vous avez tout de suite des problèmes. Troubles visuels, tremblements, et pour des gens plus fragiles, une syncope directe. Vous arrivez, boum. Ça va mal déjà. Hein. Si on ne peut pas vous ramasser, vous êtes dans la merde. Et quand ça dépasse 15%, ça ne discute pas. N'importe quel humain qui est dans une pièce, il y a 15% de CO2 en teneur de CO2, il tomberait instantanément. Il rentre, boum. Alors, si les humains, vous voyez, inconscients entre 20 secondes et morts en 4 minutes, on peut se dire peut-être que la valeur, elle est la teneur en dioxyde de carbone, en gaz carbonique dans Pandora. Si c'est vraiment du CO2 qui rend l'atmosphère irrespirable pour les humains, c'est entre 10 et 12%. Avec ça, on déduit plein de choses. D'abord, les plantes exubérantes, il y a plein à bouffer sur les plantes, pour les plantes. Alors, les plantes, tranquille, quoi, elles bouffent, tranquille. Deuxièmement, on a déjà trouvé ces teneurs sur la Terre ancienne. La Terre ancienne, à l'époque, on appelle du carbonifère, il y avait du CO2 plein pot. Les plantes, c'était exubérant. D'ailleurs, c'est ce qui fait le pétrole et le charbon et le gaz maintenant. Donc, il y a eu des époques de la Terre où il y avait beaucoup de carbone et pas du tout de dioxygène. La Terre très ancienne, il y avait plus de 20% de dioxyde de carbone et zéro de dioxygène. C'est la vie. Alors, c'est compliqué. Enfin, je vais rentrer dans les détails, mais c'est parce qu'il y a eu de la vie photosynthétique sur la Terre qu'il y a du dioxygène qui a pu s'accumuler. Sans vie photosynthétique, pas de dioxygène. Qui est un poison pour certaines espèces. Il y a des espèces qui sont anaérobies. Vous les foutez du dioxygène, ça les tue, quoi. C'est juste un poison pour elles. C'est un oxydant très puissant. Donc, adieu la vie, quoi. Certains types de vie anaérobies. Bon. Donc là, ils ont ça. Je pense que sur Pandora, ils ont un effet de serre modèle boom, quoi. Avec du CO2 comme ça, c'est gros effet de serre. Et donc, du coup, sachant que Polyphème Pandora orbite autour de Alpha du Centaure, qui sont deux étoiles, mais elle habite, on nous dit dans le film, c'est dit dans le film, elle habite autour de Alpha du Centaure A, la première étoile du couple binaire Alpha du Centaure, sachant qu'il y a beaucoup de CO2, avec une, je l'ai fait ça, je ne vous rentre pas dans les détails, mais avec un petit modèle simple d'atmosphère, et sachant que l'étoile Alpha du Centaure, elle ressemble à celle qu'on connaît, parce que c'est une vraie étoile, donc on peut avoir ses caractéristiques, par exemple, de luminosité, on peut déduire la distance entre Polyphème Pandora et Alpha du Centaure. Si elle était trop près, il y aurait trop chaud, parce qu'on est près de l'étoile, et parce qu'avec une putain d'atmosphère avec ça de CO2, je peux vous dire, l'effet de serre, c'est l'enfer, et il n'y a plus personne pour vivre dessus. Ce serait Vénus, en gros, qui a une atmosphère très riche en CO2, température de surface de Vénus, 450 Celsius. Ça rigole pas. Elle est, comme la Terre, en taille un tout petit peu plus petite, et un peu plus proche, mais elle est beaucoup plus loin du Soleil que ne l'est Mercure, par exemple. Mercure n'a pas d'atmosphère, il fait aussi 450 degrés, mais elle est vraiment proche du Soleil. Et à l'inverse, elle était trop lointaine. Alors avec du CO2, ça va aider. Mais si on est vraiment trop loin, par exemple Pluton, très très loin, moins 240, moins 250 de température moyenne, l'atmosphère, il fait si froid, il n'y en a pas. Le gaz atmosphérique, il est solide. L'atmosphère se liquéfie, puis se solidifie. Sur Pluton, il y a des montagnes d'eau solide, des montagnes d'eau solide et des glaciers de diazote solide. D'accord ? Les glaciers qui coulent autour des montagnes, c'est du diazote. Et les montagnes, dures comme la pierre sur Terre, c'est de l'eau. Voilà, donc quand il fait froid, il n'y a pas d'atmosphère non plus. Donc il faut être quelque part qui est ajusté entre le flux lumineux de l'étoile et puis si j'ai une atmosphère et quelle est sa composition. Vous voyez qu'avec pas beaucoup d'informations, qui est essentiellement le film Avatar, dont le moins qu'on puisse dire, c'est que ce n'est pas un documentaire scientifique, on peut commencer à dire énormément de choses. Ce n'est pas un documentaire scientifique, mais Cameron, qui est loin d'être un imbécile, essaie de faire des choses bien quand même. Donc il essaie de construire une cohérence interne et ça qui est sympa. Et ça qui est sympa. Bon, s'il y a des questions déjà, on peut le faire. Sinon, j'en ai encore plein sur les planètes de Star Wars, une par une. Tac, 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 tac. Jusqu'à ce que ça soit fini. Vous voyez, on fait ça si vous voulez, ou il y a peut-être des questions, peut-être faire une petite pause. On va prendre quelques questions, et puis sinon, on ne les fera pas, c'est pas grave. Hein. Je ferai de la pub pour mon bouquin. Faire de la finance avec Star Wars, ou les planètes de Star Wars, tac, 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 tac. Elles sont toutes faites, donc il n'y a plus qu'à le lire. Et vous pouvez les télécharger gratuitement. Donc c'est ça, c'est même, ça coûte même pas d'argent, donc c'est cool, sur le site des éditions du Bélial. Donc c'est sur Bélial, B-E, pas d'accent, B-E-L-I-A-L.fr. B-E-L-I-A-L.fr, vous allez dans téléchargement, gratuit, le hook, il y en a d'autres, hop, vous le prenez et vous lisez, si j'ai pas le fait sur toutes les de Star Wars, vous les aurez comme ça. Alors il y avait une question là, monsieur.
Oui, ma question c'est justement par rapport à ces masques, puisque l'être humain, les animaux, Les mammifères, on respire l'air à 90% avec les poumons,
oui,
et 10% par la peau aussi. Oui. Voilà. Et comment ça marche avec ces masques? Ça, c'est la question que je me posais.
Alors là, il arrive, bah, pour ces masques-là, ça arrive directement par les poumons. D'accord, donc c'est, ça suffit pour la respiration. Quand on fait de la respiration par masque, un masque à oxygène ou tente à oxygène, quand on fait de la médecine pour des gens qui ont eu un grave problème d'oxygénation, de suffocation, je ne sais quoi, on leur met un masque à oxygène, ça suffit très largement. Même les gens qui font de l'alpinisme, hein, monter au sommet de l'Everest, l'air, il a la même composition qu'ici. C'est pas qu'un problème de composition, c'est aussi un problème de combien, combien j'en ai aspiré. Ici, la pression est importante. Ah, c'est bon, j'en ai pris assez. Faites la même chose au sommet de l'Everest, la pression est 3 fois plus faible. Ah, il n'y en a pas assez, vous avez du mal à respirer. Donc c'est un problème de composition et de pression. Donc le masque, il est là simplement pour être sûr qu'il y ait suffisamment d'oxygène qui arrive aux poumons. Alors ça peut arriver par la peau, un peu, très peu pour les humains malgré tout. Beaucoup plus pour les batraciens, par exemple, qui respirent beaucoup par leur peau, et puis par le nez, enfin par les organes ventilatoires habituels. Et là, vous mettez un truc sur la tête, vous envoyez du dioxygène plein pot et ça roule, quoi. Comme on le fait, par exemple, quand on va en plongée aussi. Hein. Donc c'est pareil, il n'y a pas de problème particulier.
Parfait, donc je suis rassuré pour mes héros, ils peuvent ils vont pas être empoisonnés par la peau.
Il n'y a aucun problème, exactement. Alors, ça peut être un problème, il y a des gens dans le milieu des artistes qui se mettent des peintures. Parce que je sais pas, il y en avait, j'en avais vu comme ça comment on appelle ça, des équilibristes, une peinture dorée qui leur donne l'aspect de personnages de bronze. Et c'est une grosse couche très épaisse qui empêche la peau, comme on dit, de respirer. Le problème le plus grave, c'est pas tellement les échanges de dioxygène, c'est les échanges thermiques. Ça limite votre évaporation de transpiration, ça l'arrête complètement. Et comme ce sont des gens qui se dépensent un peu pour faire leur truc, ça peut être un problème parce qu'ils peuvent avoir une surchauffe de l'organisme parce qu'ils ne transpirent plus, ou plus exactement, l'eau qu'ils évacuent ne s'évapore plus, et donc en s'évaporant, on ne prend plus la chaleur du corps produite par leur action musculaire, et du coup, ils s'échauffent. Donc quand on met des antitranspirants, si vous vous couvrez d'antitranspirants en plusieurs couches, je ne recommande pas, parce que l'évaporation, la sudation est une moyen de régulation. Si vous suez, là j'ai chaud et je sue un peu, je me sens, disons, en suant, ça aide à ma régulation thermique. Donc il y a des animaux qui ne transpirent pas. Le chien ne transpire pas. Et comme il ne transpire pas, la seule façon qu'il a d'évacuer sa chaleur, avec une putain de langue comme ça, et il halète. Donc les chiens, c'est des vrais problèmes. Hein. Ils s'allongent, ils s'affalent sur le sol pour augmenter leur surface de contact avec une surface plus froide qu'eux. N'importe quoi qui est plus froid qu'eux. Et comme ça, ils échangent par contact. Et en haletant. Et c'est l'évaporation sur la langue. C'est emmerdant, les chiens, pour ça. Ils ne suent pas. Voilà. Il y avait une autre question, peut-être, un autre. Ça, c'est un extraterrestre pour nous, le chien, déjà. Les extraterrestres ne sont pas où on les croit. Dites-moi.
J'aurais voulu revenir sur les exoplanètes et oui, sur les connaissances qu'on a actuellement, oui, de leur découverte. Admettons, à 10, 15 années-lumière, je ne sais pas, de nous, on a un système exactement équivalent au nôtre, c'est-à-dire avec les géantes gazeuses, leurs satellites autour, Mercure tout près, la ceinture de Kuiper, etc. Qu'est-ce qu'on est capable de détecter aujourd'hui et comment? Enfin, peut-être qu'il y a une histoire d'angle aussi.
Alors, les mesures de détection qu'on a, dont on dispose actuellement, sont des détections indirectes. On sait qu'il y a une planète, mais on ne la voit pas. On voit ses effets gravitationnels, où ça veut dire que la planète et son étoile tournent autour de leur centre de gravité commun. Donc l'étoile Soleil, elle n'est pas fixe au centre du système solaire. Elle tourne, le Soleil tourne autour du centre de gravité du système solaire. Le Soleil est d'une masse si importante que le centre de gravité du système Soleil-Terre, il est à 400 km du centre du Soleil. Le centre de gravité du système Soleil-Jupiter, qui est la plus massive du système solaire, il est à la surface du Soleil. Donc, le Soleil tourne autour d'un point qui est en gros pas loin de sa surface. Et si vous regardez le Soleil de loin, vous allez le voir tourner avec la période de Jupiter autour d'un point qui est très proche de son centre. On sait détecter ce mouvement. On sait détecter aussi, et donc en déduire, la masse de la planète qui cause cette déviation. On sait aussi détecter le passage d'une planète devant son étoile, une sorte de micro-éclipse. Toute petite planète qui passe devant la grosse étoile, ça fait une baisse de luminosité. On voit cette baisse et on en déduit les paramètres orbitaux. Si l'étoile passe devant, si elle passe au-dessus ou en dessous, on ne la voit pas. Donc, c'est des détections indirectes. Donc, on est pour l'instant, la première exoplanète, c'était quelque chose qui était plus gros que Jupiter. Maintenant, on sait détecter des objets qui ont quelques fois la masse de la Terre, de l'ordre de la masse de la Terre. Voilà. Et on est, dans les prochaines années, ça va s'améliorer. C'est incroyable les progrès qu'on a fait en 20 ans. On peut penser que dans moins de 10 ans, on aura des moyens de détecter des objets de la taille de la Terre. Donc si on était loin de notre système solaire et qu'on le regarde, on verrait la Terre et Vénus, on verrait Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune. Voilà. Et on les verrait, on les séparerait bien, le signal serait un peu bruité, ça serait compliqué, il faudrait observer plusieurs années pour être sûr d'avoir assez d'informations, mais on finirait par se rendre compte qu'il y a tous ces objets. Peut-être on raterait Mercure, les astéroïdes, tout ça certainement, les satellites certainement aussi, Pluton et compagnie certainement aussi, mais on verrait l'essentiel, enfin, ce qui passe au-dessus du filtre. Quoi. Voilà, comme les tamis, ce qui passe dans les trous, on les récupère, le reste, on est foutu.
Bonjour. Conditions de vie sur une planète autour d'une naine rouge.
Alors, conditions de vie autour d'une naine rouge, bien sûr, il y a beaucoup de naines rouges. Bien sûr, les étoiles de petite taille, comme le Soleil, et à fortiori les étoiles plus petites, sont les plus nombreuses et de loin dans notre galaxie. Alors, une planète qui aurait un Soleil qui serait une naine rouge, ça veut dire une étoile plus petite que le Soleil, et qui est rouge, c'est-à-dire qui est froide. Et c'est une étoile qui va vivre très longtemps, parce que c'est une étoile qui vit chichement. C'est comme le lion et l'âne. Est-ce qu'on veut vivre le court comme un lion ou long comme un âne? C'est un peu une question de choix. Si on a le choix, chacun fait son choix. Là, pour les étoiles, c'est fixé par leur masse initiale. Les très grosses étoiles vivent très peu de temps. Les très petites étoiles vivent très longtemps. La durée de vie d'une étoile, le temps qu'elle met pour consommer l'hydrogène par ses réactions de fusion nucléaire au centre, c'est très fortement corrélé à sa masse. Et la durée de vie, elle varie en gros comme l'inverse du carré de la masse. 10 fois plus massif, 100 fois moins durable. Donc une étoile, une petite étoile, une naine rouge, va avoir une durée de vie très grande. Plus grande que celle du Soleil, peut-être 20 ou 30 milliards d'années, là où notre Soleil, la durée de vie estimée, c'est 10 milliards d'années. Premièrement. Deuxièmement, c'est une étoile qui est plus petite en taille et plus froide. Donc elle va être moins lumineuse. Elle va rayonner des lumières plus rouges, comme elle est plus froide, elle va rayonner dans le spectre visible. Pas beaucoup de bleu, petit peu de vert, pas mal de jaune et d'orange, un paquet de rouge et un gros paquet d'infrarouge. Des lumières qui sont inaccessibles à nos yeux, de l'infrarouge. Donc si on était sur une planète autour d'une naine rouge, on aurait l'impression, pas dans la nuit, mais d'avoir une étoile très sombre dans le ciel, parce qu'il y a une grande part du spectre lumineux qui n'atteindrait pas nos yeux, enfin plutôt qui l'atteindrait, mais que nous ne verrions pas. Pour les conditions de vie, il n'y a pas d'opposition particulière. Simplement, si vous avez la Terre, vous remplacez le Soleil par une naine rouge, la Terre, la même Terre, au même endroit, la naine rouge, elle va être, mettons, allez, on va dire, deux fois moins brillante. Ça veut dire que vous allez recevoir, alors, deux fois moins, ou deux fois moins de lumière sur la Terre, ça marche. C'est emmerdant. Deux fois moins, c'est quand même pas mal de moins. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aurait pas de vie sur Terre, ça veut dire qu'il ferait plus froid sur Terre, et peut-être une vie se serait développée dans des conditions où la température moyenne de la Terre, qui est plutôt 15 degrés Celsius, peut-être elle serait seulement, il faudrait calculer avec un facteur 2, ah, je ne peux pas le faire de tête comme ça, c'est un peu compliqué, il y a une racine quatrième à extraire, il faut jouer un peu, mais donc je ne peux pas vous le dire comme ça. Mais peut-être que la température moyenne serait suffisante, même avec un facteur 2. Non mais c'est vraiment ça, la racine quatrième de 2, je vous dirai pourquoi après, mais si vous avez fait de la physique, vous savez pourquoi. Donc, il ferait peut-être encore assez chaud pour que la température moyenne soit supérieure à 0 Celsius. Ça, c'est important. Supérieure à 0 Celsius, ça veut dire qu'il y a de l'eau liquide. Il y aura beaucoup d'endroits gelés, hein. Mais il y aura de l'eau liquide si la température moyenne est supérieure. Si la température moyenne est en dessous de zéro, il y aura de la glace partout. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire sur la Terre si on avait une naine rouge à la place du Soleil? Elle est deux fois moins brillante, la naine rouge. Eh bien, il suffit d'approcher la Terre. Vous prenez la même Terre et vous l'approchez. De sorte que le flux que vous recevez de l'étoile soit comparable à celui qu'on reçoit actuellement du Soleil. Il y a des subtilités parce que le flux qu'on recevrait de cette naine rouge, il va être essentiellement émis dans l'infrarouge. L'atmosphère de la Terre, l'atmosphère telle qu'elle est, elle est opaque à la lumière infrarouge. C'est même ça, opaque. Pas complètement opaque, mais elle est essentiellement opaque à la lumière infrarouge. C'est pour ça qu'il y a des effets de serre. Donc, plus près, ce n'est pas suffisant. En fait, plus près. Plus près un coup pour recevoir, disons, au moins autant d'énergie. Mais cette énergie, comme elle sera reçue essentiellement sous infrarouge, on va se rapprocher encore un petit peu, et ça se calcule, pour que la partie de la lumière visible, celle qui transperce l'atmosphère et qui arrivera au sol, soit vraiment reçue au sol. Donc c'est plus près deux fois. Le plus près de luminosité, il est facile à calculer. Si vous êtes deux fois plus près, il faut être racine carrée de deux fois plus lumineux, racine deux fois moins lumineux, je vais y arriver, racine carrée de deux fois plus près. Racine carrée de deux. Quatre fois moins lumineux, racine carrée de 4, donc deux fois plus près. Donc il faut être plus près, et puis après, éventuellement, ou alors, autre solution, prenez la même terre, et au lieu de la rapprocher et de la rapprocher, vous la rapprochez et vous mettez un petit coup de CO2 dans l'atmosphère. Là, ça améliore l'effet de serre. D'accord ? Donc on peut jouer, c'est tout à fait envisageable. Il y a des solutions qu'on sait calculer, qu'on sait estimer. Enfin, il n'y a pas de. Voilà. Il n'y a pas d'opposé a priori. Alors, évidemment, les animaux qui vivront sur Terre, sur cette Terre hypothétique autour d'une naine rouge, ceux qui ont de la vue, qui utilisent la lumière de l'astre pour regarder, eh bien, ils ne vont pas être comme nous, où on a un maximum de sensibilité. Où est le maximum d'émissions du soleil en couleur ? C'est le vert. Où est le maximum de sensibilité des yeux habituels mammifères ? C'est le vert. J'ai recherché l'erreur. Il y a plein d'êtres qui n'utilisent pas la lumière solaire visible, les abeilles qui utilisent les ultraviolets, les crotales qui vont en lumière visible mais qui utilisent aussi la lumière infrarouge. Bon, ben, ils ont des détecteurs spéciaux. Il y a des bestioles qui vivent dans les abysses. Pour les bestioles, les abysses, le soleil, ça n'existe pas. Elles vivent de manière complètement indépendante. Le soleil disparaît, les abysses n'en ont rien à foutre. Elles ne vivent absolument pas sur une chaîne où le soleil est quelque part. Nous, c'est important, et pas que pour la vue. Parce que ce qu'on mange, du bœuf ou des plantes, les bœufs, ils mangent des plantes, nous, on mange des plantes et du bœuf, et les plantes, elles poussent grâce au soleil et au CO2. Plus de soleil, plus de plantes, plus de plantes, plus de bœuf, plus nous. Donc nous, dans la chaîne alimentaire, on est dépendant très directement du soleil, et plein d'êtres vivants de surface. Mais ceux des abysses et ceux des cavernes et des grottes, ils en ont mais rien à foutre. Ils vivent indépendamment du soleil sur un mode qui n'est pas la photosynthèse, qu'on appelle chimiosynthèse. Donc les plantes d'une terre autour d'une naine rouge, il faudrait qu'elles se débrouillent pour faire de la photosynthèse avec la lumière qui arrive. C'est tout à fait envisageable. Il y a des pigments qui sauraient faire ça. Il y a d'ailleurs des pigments dans la synthèse chlorophyllienne. Il y a pour ceux qui savent, il y a la chlorophylle A, la chlorophylle B, deux pigments qui sont verdâtres. Il y a la xanthophylle, un pigment qui est jaune, donc qui est sensible aux longueurs d'onde basses. Il y a des pigments, on en connaît, qui sont sensibles dans les gammes plus vers le rouge. Donc voilà, on pourrait imaginer des plantes et qui apparaîtraient comment ? Elles apparaîtraient très sombres à nos yeux, peu de lumière bleue, peu de lumière verte, beaucoup de lumière jaune, orange, rouge, des plantes qui absorbent cette lumière pour faire la photosynthèse. Donc la plante ne la renvoie pas. Elle renverrait quoi ? Ben, ce qui reste, l'infrarouge qu'on ne voit pas. Donc on verrait des feuilles très sombres, très noires, de plantes qui font de la photosynthèse. Vous voyez, c'est super facile à déduire, se faire une idée. Après, on peut réfléchir dans des détails. Il y a des gens qui ont réfléchi à ça, qui ne se sont plus à imaginer des modes photosynthétiques sur des planètes différentes, avec des soleils différents d'une autre. Voilà ce qu'on peut dire vite fait, sur une planète autour d'une... Enfin, vite fait, vous voyez, ça prend déjà 10 minutes, 5 minutes.
Oui, bonjour.
Bonjour.
J'ai deux questions. Déjà, est-ce que on peut vraiment imaginer que la vie se développe sur Pandora, sachant que c'est juste une lune, donc elle a juste la libration.
Alors, sur Pandora, on peut... Pourquoi pas ? Simplement, on voit tout de suite des choses qui se produisent sur Pandora et ne se produisent pas sur Terre, ou des qui se produisent sur Terre et pas sur Pandora. Par exemple, sur Pandora, cette lune a toujours la même face à Polyphème. Elle est éclairée par Polyphème, par la réflexion sur Polyphème, comme la Lune est éclairée par la réflexion sur la Lune, comme la Terre est éclairée par la réflexion sur la Lune, un petit peu. Mais là, Polyphème, c'est un putain de truc. Vous voyez, la taille apparente dans le ciel, ça doit faire à vue de nez 20 degrés. Hein, c'est un énorme truc. D'ailleurs, on peut estimer la luminosité de la nuit de Pandora. J'ai essayé de l'estimer. C'est à peu près 1500 pleines lunes. La pleine lune, 1500 fois. Vous voyez ? C'est brillant. Donc, il y a des. Alors, c'est pour ça que quand on voit de la vie aussi sur Polyphème, sur Pandora, qui est bioluminescente, les bioluminescences sur Terre, c'est uniquement dans les endroits sombres. Les lucioles qui vivent la nuit, plein de poissons des abysses, ou plein de bestioles des abysses, et plein de bestioles cavernicoles, ou de champignons cavernicoles. C'est jamais les bestioles qui sont diurnes, quoi. Jamais nous, pas nous. Alors que les navis, ils ont des petites taches un peu la classe, quoi, quand on les voit la nuit, quoi. Bon. Donc, du coup. Je ne vais pas dire que la vie est impossible, on n'en sait rien, on ne sait même pas comment la vie est apparue sur Terre. Donc dire qu'elle est impossible sur Pandora, ce serait vraiment s'avancer sur un truc genre Pandora. Mais il y a des choses qui sont très différentes de ce qu'on connaît. Donc on se dit, elle va prendre un cheminement qui sera de facto très différent. En même temps, il n'y a pas d'impossibilité. Hein. S'il y a la bonne énergie, s'il y a la bonne lumière, s'il y a de l'eau liquide, s'il y a de la nourriture, du CO2 pour les plantes, hein, super, ça suffit. les premiers êtres photosynthétiques, c'est des algues bleues, hein, les premières vies sur Terre, qui ont bouffé du CO2 pour faire du dioxygène et qui faisaient leurs déchets. C'est ce que nous, on respire, du dioxygène. Donc, voilà, il n'y a pas d'impossibilité. Voilà, il n'y a pas d'impossibilité. Ce n'est pas une chose qui est la plus volontiers examinée dans les gens qui s'intéressent à la possibilité d'une vie extraterrestre. Ils imaginent plutôt ça sur des planètes. Mais il n'y a pas d'impossibilité rédhibitoire à ce que ça soit sur un satellite d'une planète géante.
D'accord. J'ai entendu dire aussi que la présence de la Lune était fortement... a été très, très gens, importante pour l'apparition de la vie.
Exactement, des gens qui ont étudié d'abord la formation de la Lune et puis ensuite son mouvement autour de la Terre. La Terre, elle a un axe de rotation qui bouge dans le temps. On appelle ce mouvement la précession. L'inclinaison de l'axe de rotation de la Terre sur son plan orbital, c'est la cause des saisons. Le fait que l'axe de la Terre est incliné sur son plan orbital, c'est ça qui fait qu'il y a un été, enfin en tout cas sous nos latitudes, qu'il y a des saisons très marquées. Et évidemment, plus haute latitude. Cette inclinaison change dans le temps. Et l'axe, il tourne comme ça. Et il y a une variation d'inclinaison. On a compris, enfin, un mécanicien céleste français, Jacques Lascar, a montré que grâce à la Lune, qui est un gros satellite par rapport à la Terre, si on regarde les satellites de Mars par rapport à Mars, c'est des cailloux, c'est des trucs minables qui font 10 km de taille. Et les satellites de Jupiter par rapport à Jupiter, ils sont gros comme la Lune. Mais Jupiter, c'est un truc énorme. Donc, ils sont petits par rapport à Jupiter. Donc le fait que la Lune soit assez grosse et assez proche de la Terre, ça a stabilisé, ça a limité les possibilités. Autrement dit, une possibilité qui aurait été l'axe de rotation, il ne fait pas ça, il fait bang comme ça. Et là, ça fait des changements dramatiques sur le climat de la Terre, pas des petites glaciations, pas des glaciations même qu'on en a connues qui ont duré des millions d'années. Ça fait des glaciations, grosses glaciations qui disent des milliards d'années. Donc là, ça vous scotche pas mal pour niveau vie. Bien, ce genre de choses-là est d'une certaine façon empêché ou limité par la présence de la Lune. Donc certains se sont dit peut-être que la présence d'un gros satellite, ces excursions-là, elles sont naturelles, elles sont dues aux perturbations du mouvement de la Terre dues aux grosses planètes et à la non-sphéricité du Soleil. Bon, si vous êtes dans un système où il n'y a pas de grosses planètes, peut-être vous n'avez pas besoin de Lune. Mais voilà, on a l'impression que pour la Terre, le fait qu'elle ait un gros satellite, ça l'a aidé à, disons, avoir un climat qui a beaucoup varié, mais ça aurait pu être bien pire. Qui a beaucoup varié au fil des millions d'années, mais ça aurait pu être bien pire, et en tout cas très dommageable pour la vie.
Et il y avait également la présence de Jupiter qui sert.
Alors, Jupiter, c'était un emmerdement, parce que, enfin, un emmerdement, ça fait bouger l'axe. S'il n'y a pas la Lune, ça limite. Bon. Mais Jupiter a été une bénédiction, parce que vu le gros machin que c'est, ça a ramassé en gravité, c'est toujours les gros qui gagnent. Hein. David contre Goliath en gravité, c'est jamais David qui gagne. Jamais. Je suis plus gros, j'ai plus d'attraction. J'attire, le gros attire le petit. Le petit attire le gros avec la même force. La Terre m'attire vers son centre. J'attire la Terre vers mon centre de gravité avec la même force. Simplement, il y a une toute petite différence. C'est qui est-ce qui bouge ? C'est celui qui a le moins d'inertie. Celui qui est le plus léger. C'est moi qui bouge, c'est pas la Terre. Donc quand je pousse sur la Terre, je pousse sur la Terre, c'est moi qui bouge. Et la Terre, elle bouge un tout petit peu. Et pas beaucoup, parce qu'elle est beaucoup plus grosse que moi. Donc c'est les gros qui gagnent, le gros, il est là. Il attire le petit attire le gros avec la même force. C'est complètement symétrique. Mais celui qui bouge, ça se voit, c'est le petit. Il tombe dessus. Donc ça, Jupiter, parce qu'elle est très massive, elle a pu faire un peu le ménage, un peu largement, on va dire. Et du coup, ça a pu limiter le nombre d'objets de petite taille, les débris de formation des planètes du système solaire qui ont pu, et qui ont, on le sait, frappé la Terre et la Lune au moment de leur formation. Et en frappant la Terre et la Lune, bah ça fait chier le monde, quoi. Enfin, il n'y avait personne dessus, mais ça ralentit la formation de la Terre et ça peut-être décale d'autant, de peut-être centaines de millions d'années, la solidification de la Terre, formation de l'atmosphère, de l'hydrosphère, etc. Et après l'apparition de la vie. Donc, ça n'a pas aidé à la formation de la vie, mais disons qu'avoir un bombardement plus intense de tout un tas de débris aurait pu changer les conditions initiales de la Terre.
Donc la présence d'une Lune et de Jupiter ont aidé, mais ne sont pas forcément indispensables.
On ne sait pas si c'est indispensable. Il semble que pour notre Terre, ça a eu un rôle plutôt positif, mais on ne sait pas si c'est canonique, si c'est absolument ça qu'il faut à chaque fois. Je crois qu'il est l'heure, on va arrêter. Merci à vous, merci d'avoir été si nombreux pour de la science. Et à bientôt alors.